Condensé avec des canons sciés, disent des bêtises en condensé, sont pas aussi real qu'annoncé. Je déguise que mes sentiments, j'ai peur. Bon vendredi 27 janvier 2023, ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke. On y est arrivé. Content de vous retrouver cette semaine. Beaucoup de dossiers quand même sont arrivés au courant de la semaine, dont probablement celui qui divise le plus le peuple américain. Coup de génie, coup marketing où on a vraiment décidé d'agir en conséquence. La question est lancée. Parce qu'aux États-Unis, cette semaine, on apprenait que les mascottes, pas les figurines, mais les personnages de M&M allaient être complètement remplacés par l'actrice et comédienne américaine Maya Rudolph. Parce que depuis quelques semaines déjà, pour une raison qui échappe à beaucoup de monde, mais qu'on ne pourrait qu'expliquer que par ces Fox News, que voulez-vous, la chaîne américaine de droite a décidé de partir en croisade contre la marque de bonbons. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'introduire une nouvelle, un nouveau personnage, une nouvelle mascotte. Une mascotte mauve. Et ça, on se souviendra, il y a 20 ans, qu'il y avait eu ce même genre de réaction, même 25 ans, qu'il y avait eu ce même genre de réaction-là lorsqu'un certain Tinky Winky chez les Teletubbies était apparu. Étant un personnage dit peut-être masculin, même ce sont des Teletubbies, mais vu qu'il était mauve et qu'il avait une sacoche, c'était problématique. On dirait que c'était problématique il y a 25 ans, mais ça le serait encore aujourd'hui. À preuve, la nouvelle bonbon, parce que c'était techniquement un personnage féminin, ça aurait été uniquement le troisième. Donc déjà là, ça faisait en sorte que c'était cinq mascottes masculines, trois mascottes féminines. Et la huitième, donc, en lice, était mauve. Et là, on demandait sur la chaîne américaine, coudon, M&M sont-tu rendus woke? Parce que ça, c'est le mot fourre-tout préféré de la droite radicale de ce temps-ci. Bon, la droite ordinaire aussi. Donc, il posait la question, coudon, mauve, aviez provoqué qui là, en faisant ça, là, en étant un peu ronde et en étant mauve? Quand son introduction avait été un genre de comédie musicale, de dire, donnez-moi une chance. Ça sonne absurde. Ça sonne complètement absurde, mais c'est les États-Unis en même temps. Fait que c'est aussi complètement normal, entre guillemets. Donc, mauve vient créer un climat de confusion des plus totales. Et on commence à se poser des questions sur des personnages de fiction que sont les personnages de M&M. Ce qui a fait en sorte notamment que la personnage de Verte, qui était la toute première M&M féminine des personnages, on lui a enlevé ses talons hauts. Parce que, évidemment, M&M verte, avec des talons hauts, c'était de la provocation pas mal, là. Donc, déjà que Verte avait perdu ses talons, on avait introduit Brune quelques années plus tard, avec des gags aujourd'hui, évidemment, qu'on peut regarder les publicités d'M&M et on se dit, voyons que ça a passé en onde de, justement, M&M brune, qui, comme elle n'a pas de couleur, entre guillemets, font des jokes entre rouge et jaune de « Ah, ben là, si on peut enlever nos sous, nous autres aussi. » Donc, ça a toujours été comme un peu polarisant, les mascottes d'M&M, quand eux autres, ça se veut être pas mal juste une joke. Et finalement, Mauve a comme été l'espèce de clou dans le cercueil pour la droite comme Fox, pour faire des shows complets à bâcher, à jeter leur fiel sur, je le rappelle, des personnages de fiction qui n'existent pas pour représenter des bonbons. Des M&M, de surcroît. Ce qui fait en sorte que cette semaine, il y a une étrange nouvelle qui est sortie avec la compagnie mère qui vient dire, bon, suite au débat polarisant qui a en cours actuellement, nous avons décidé de renoncer à nos mascottes, donc nous allons retirer tous les personnages de M&M, et ce, dès aujourd'hui. Nous allons remplacer par quelqu'un qui fait l'unanimité aux États-Unis, Maya Rudolph, et nous espérons que nous allons arrêter de parler de ce faux débat et nanana et nanana. L'affaire, c'est qu'il y a des gens qui pourraient dire que Maya Rudolph n'est pas si neutre que ça, étant donné qu'elle a déjà interprété Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis démocrate, dans des sketchs de Saturday Night Live aux États-Unis. La ressemblance est quand même présente. Donc là, parlons de neutralité, elle représente quand même une bleue dans le volet artistique de la chose, lorsqu'elle était aux côtés de Jim Carrey qui faisait Joe Biden. Évidemment, c'est pour la blague. C'est vrai que c'est difficile de revenir contre Maya Rudolph, est quand même assez neutre politiquement. Et règle générale, les gens le trouvent drôle. T'sais, si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être pas, mais dans le cas de Maya Rudolph, ça fait sourire. Mais moi, je reste un peu sceptique là-dessus. Parce que on est quand même le 27 janvier et il y a ce qu'on appelle éventuellement sur les ondes sportives américaines ce qu'on appelle le Super Bowl. Et ça, le Super Bowl, règle générale, s'il y a beaucoup de gens qui le regardent pour le match d'esport, il y a beaucoup de gens qui regardent le Super Bowl également pour son volet publicitaire. Et règle générale, dans ce volet publicitaire-là, on aime beaucoup avoir des artistes, des vedettes qui viennent faire des caméos, qui viennent faire des apparitions, qui viennent surprendre les gens. My two cents, mon petit grain de sel que j'ai envie de mettre là-dedans, c'est que oui, probablement qu'on était écœuré de se faire écœurer par les mêmes 6 personnes à Fox News qui virent fou avec des personnages de fiction, hein, on le dira jamais assez, des personnages qui n'existent pas dans la vraie vie, à part être sur des emballages et ou des publicités à la télé. Mais j'ai comme ce petit feeling-là que Maya Rudolph... En plus, la première publicité de Maya Rudolph, c'est que les M&M vont s'appeler des Ma et Ya Astor. Fait que, tu sais, j'ai envie... Tu sais, un peu comme les espèces de poissons d'avril qui commencent à Star une semaine et demie, deux semaines avant le 1er avril pour justement culminer le 1er avril. J'ai envie de dire que il y a comme un espèce de petit feeling, peut-être... que ce serait un petit stunt publicitaire que, rendu au Super Bowl, soit que Maya Rudolph va être déguisée en M&M mauve, ou qu'elle va se faire tasser par tous les M&M qui vont dire « Là, là, Maya, je trouve que c'est exagéré, on a notre place, et elle va faire un numéro chanté avec mauve. » C'est trop gros pour dire qu'une chaîne de nouvelles qui cherche à créer la polémique réussisse à avoir le gain sur une compagnie de bonbons. Peut-être je me trompe, mais j'ai le feeling, surtout avec le fait que le Super Bowl s'en vient, qu'il va avoir une retombée jusque-là. Ou à la limite, il va avoir 3-4 publicités dans le Super Bowl de M&M de Maya jusqu'à la dernière où les bonhommes M&M vont réapparaître. C'est trop gros pour qu'on tasse complètement tous les M&M ou qu'on dévoile que c'était Maya Rudolph qui faisait la voix de mauve depuis tout ce temps. Je sais pas. Mais il y a un... Il y a quelque chose d'un peu trop gros, à mon avis. Donc, reste à voir si c'est bien vrai, si vraiment on fait disparaître les mascottes de M&M pour une période indéterminée. Et sinon, en réaction, évidemment, on a voulu faire la blague du côté de IW. Aux États-Unis, on a la mascotte qui s'appelle Root, sauf erreur, le Root Bear... parce que s'ils vendent de la Root Beer, donc le Root Bear, ont déclaré, donc la compagnie AEW a déclaré que sa mascotte allait, après toutes ces années, finalement répondre aux attaques dont ils sont victimes et mettre un pantalon au grand Root Bear. Donc, il allait maintenant porter un pantalon à l'avenir en tant que compagnie qui prenait à cœur les décisions de ses détracteurs. Évidemment, c'était une blague. Ils l'ont rajouté en dessous. Ah ouais, mais c'est une blague, hein, by the way. Ce qui a fait en sorte que, comme par hasard, Fox News est encore apparu dans le décor pour relever la nouvelle comme si c'était sérieux, pour justement dénoncer le fait que Root Bear n'avait pas de pantalon, qu'il était temps que ça cesse ce genre de niaiserie-là et tout ça, quand dans les faits, justement, ça a été rajouté par la suite, AEW a clairement signifié que ceci est une parodie, en voulant dire que eux autres non plus était pas tout à fait crédible, ou en tout cas ne créait pas tant que ça l'affaire des M&M. Donc, ils ont voulu sauter sur l'occasion. Évidemment, la mise en page également du message qui disait que Root Bear allait avoir des pantalons était assez dans la même formule, l'espèce de même encadré brun. Les M&M et la Root Bear étant de la même couleur, donc ça aide. Mais, évidemment, que Fox News est tombé dans le panneau, si quand justement ce n'était pas vrai, ils ont voulu en rire plus que d'autres choses. Évidemment, il y a des sites qui ont relayé la nouvelle comme si c'était vrai. Et dans le cas des M&M, c'est ça qui est drôle. Ça a fait le tour des médias, ici même, au Québec aussi, au Canada également. Donc, j'ai l'impression que c'est probablement juste l'espèce de stunt publicitaire, l'espèce d'événement pour niaiser tout le monde et finalement ramener les personnages comme si de rien n'était par la suite, juste pour accuser que on est au courant que vous cassez du sucre sur notre dos. Pis ça, c'est drôle, parce que c'est une compagnie de bonbons cassés du sucre, mais tu sais, qui font exprès pour justement un peu attiser et juste niaiser les principaux concernés de « là, vous exagérez, là, c'est toujours bien des personnages qui existent pas, revenez-en, c'est des M&M, et si elle a une forme qu'elle n'a pas comme les autres, c'est parce que c'est peut-être du chocolat aux amandes. » Ça donne de même que chocolat aux amandes et chocolat aux peanuts, ils ont des formes un peu plus différentes que le M&M rond qui ne contient rien d'autre. On dit ça, on dit rien. Genre jaune qui est aux amandes, comme par hasard. Mais c'est drôle, on n'en parlait pas avant ça. Ouais, si bref. Donc voici la saga de M&M résumée. Avec Root Bear qui s'est rajouté de chez IW USA. Voilà ce qui en était cette semaine pour les personnages de fiction qui font jaser sur des chaînes qui se veulent sérieuses, mais qui ne sont pas tant que ça. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite de l'actualité de la semaine, ici même sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
Mais ce soir, je cède à l'usure, usiner, lessiver. Les sirènes sont loin, déjà mes lendemains s'y mêlent. Longtemps, longtemps, c'est long, longtemps à attendre, à tout donner, la tête et le doigt levé.
Mais ce soir, de Louis-Adrien Cassidy et d'Anatole sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Allons en suivi de dossier cette semaine, puisque ben, en fait, commençons d'abord avec ce qui a retenu l'attention ce matin, surtout du côté de la ville de Sherbrooke. Il y a une fausse alerte à la bombe qui a entraîné la fermeture du Triolet du côté de Sherbrooke vendredi matin pour des raisons de sécurité. Donc l'école en tant que telle, bon, l'appel a été logé vers 7h-5, donc les quelques personnes qui étaient déjà arrivées dans l'enceinte de l'établissement ont tous été évacuées. Les bâtiments autour étaient corrects, entre guillemets, mais bon, il n'y avait personne qui avait accès à l'école en tant que telle. Le porte-parole du service de police de la ville de Sherbrooke, Benoît Pellerin, confirme que les vérifications ont permis de déterminer que le bâtiment était sécuritaire. Un poste de commandement avait même été installé à l'intérieur de l'établissement. Plusieurs policiers, patrouilleurs, motards, sécurité des milieux et des policiers aux enquêtes ont contribué et on a pu faire le tour des lieux pour s'assurer que tout était sécuritaire et qu'il n'y avait pas de bombe à l'intérieur. Le SPS a donné peu de détails concernant les menaces reçues et celles-ci visaient directement des individus ou l'ensemble de l'établissement. Bon, il y a certaines nouvelles qui disaient que c'était des professeurs qui étaient visés. Mais là, évidemment, on essaie d'être moins précis au moment de donner les faits. Certains élèves, bon, voilà, étaient déjà arrivés sur les lieux vendredi matin. Au moment de la fermeture de l'école a été décrétée, les élèves du sport-études étaient déjà sur place. Ils ont été pris en charge et ils n'étaient pas en danger. On voulait éviter d'avoir trop de personnes sur place, a précisé le directeur du secrétariat général et des communications du centre service scolaire de la région de Sherbrooke, Donald Landry. Les élèves qui arrivent à l'école ont été redirigés vers le complexe Thibault et on leur a demandé d'appeler leurs parents. Les professeurs au pavillon de technique industrielle 24 juin étaient également déjà sur les lieux lorsque l'espèce a décidé de fermer l'école. Parce qu'il faut comprendre également qu'au Triolet, pour les gens de Québec, le Triolet regroupe pas nécessairement que l'école, mais il y a un complexe sportif, il y a les bureaux de la commission scolaire, bon, le centre des services scolaires pour le nouveau nom de la CAQ, le 24 juin, qui est l'enseignement pour les adultes. Donc, il y a plusieurs bâtiments sur ce site-là en tant que tel. Quoique le 24 juin, il est en face, mais quand même. On a averti les élèves de prendre les choses et et que par la suite, ils allaient être par team. Donc, pour les élèves du secondaire, allaient se faire sur Internet les cours pour la journée. Les bureaux administratifs, voilà, du centre de services scolaires de la région de Sherbrooke sont également fermés pour la journée. Les employés sont appelés à faire du télétravail. Donc, ça a tenu en haleine jusqu'à tôt ce matin. Au moins, ça se conclut bien en étant une fausse alerte. Bon, ça se conclut bien. Façon de parler, mais quand même. Donc, ça a déjà été... réglé de ce côté-là. Sinon, comme je le disais, suivi de dossier... Et conclusion, dans ce cas-ci, c'est l'affaire Simon-Houl. On en avait parlé avant les fêtes. Il y avait eu une plainte qui avait été déposée au conseil de la magistrature contre le juge Poliquin qui avait rendu un verdict qui avait fait jaser dans l'entièreté de la province, Mathieu Poliquin, pour ne pas le nommer, qui avait qualifié l'agression sexuelle de somme toute rapide, ce qui faisait en sorte que Simon Houle ne méritait pas d'avoir un casier judiciaire et de l'empêcher de voyager pour son travail. Évidemment, le jugement avait fait énormément réagir, ce pourquoi il y avait cette plainte-là, mais évidemment, elle n'avait pas été recevable, puisque de la manière qu'elle avait été formulée, c'était un peu plus sur le coup de l'émotion qui avait été envoyée, donc ça n'était pas recevable sur le fait de ne pas être d'accord avec le juge, ça n'était pas un argument recevable. Donc, cette décision-là avait été renversée, mais entre cette période-là et justement Simon Houle qui revient devant la justice, il y avait quand même eu des événements par la suite. Donc lorsque son jugement avait été rendu public, il était en vacances dans le sud à recommencer à faire des attouchements non sollicités sur d'autres femmes. En se défendant en disant « c'est pas lui, c'est mes mains qui font ça ». Donc, raison boboche, mais quand même. Donc, la décision a été portée en appel, évidemment. La cour, le jugement à cour d'appel a été rendu. Donc, on est allé demander une révision de sentence puisqu'il était sous libération conditionnelle. Donc, il devait respecter certaines choses. Évidemment, en étant dans le sud et en faisant encore le niaiseux, il ne respectait plus ses conditions. Donc, on est allé en cour d'appel pour justement renverser renversé la décision et finalement la couronne a eu gain de cause de ce côté-là. Le verdict a été effacé, celui de Mathieu Poliquin, pour donner finalement un 12 mois d'emprisonnement pour Simon Hull. Une personne raisonnable ne comprendrait pas que Simon Hull puisse échapper à une condamnation, ont affirmé unanimement les trois juges du plus haut tribunal du Québec, soit de la cour de révision. Je vais pas dire n'importe quoi non plus, mais la cour d'appel, voilà, qui ont fait la révision du jugement. Pour le regroupement québécois des centres d'aide et de la lutte contre les agressions à caractère sexuel, cette décision est très positive. Les centres d'aide aux victimes et d'actes criminels, le CAVAC, se réjouissent également de l'issue du dossier. Après le tollé que l'absolution conditionnelle, faut le dire, avait causé au sein de la population l'été dernier, c'était nécessaire de revoir cette décision dans l'intérêt de la victime qui a dû se sentir abandonnée par le système judiciaire, mais aussi dans le but de rassurer le public, selon la coordonnatrice Marie-Christine Villeneuve. Et ce qui est important aussi de mentionner dans tout ce dossier-là, c'est que, oui, il y a eu la correction de ce jugement-là, mais ce n'est pas que Simon Hull s'en allant en prison lundi prochain. Fouillez-moi pourquoi, mais il y avait quand même le reste de la semaine pour s'en aller en prison 12 mois à partir de lundi prochain. Il y avait aussi la correction du juge Mathieu Péloquin, parce que Poliquin avait bien analysé la chose. Il y avait, et ça c'était dans le rapport, il avait été capable de pointer tous les points qui étaient importants, donc son analyse était speak and span. Donc c'est pour ça que justement dans le genre de plainte reçue, quand on disait que son analyse n'est pas bonne, au contraire, les points mis de l'avant, les raisons qu'il donnait pour éventuellement arriver à un jugement étaient bons. Ce bout-là était bien fait. C'est par la suite, c'est l'interprétation, c'est les espèces de raisons qu'il donnait, genre vu que l'agression n'a pas duré longtemps, ça mérite pas d'aller en prison, quand dans les faits, l'agression a duré sur plusieurs minutes, c'est pas quelques heures, et notamment de prendre des photos, et ces photos-là qui ont été conservées pendant une longue période de temps dans le cellulaire de Simon Hull. Donc, il y a des photos non consentantes, bien évidemment, donc c'est pour ça que il y avait plusieurs points, justement, plusieurs points comme ça, c'est-à-dire qui faisaient du sens. Le jugement de Poliquin était bon, mais venu le temps d'expliquer et de donner les raisons pourquoi il ne condamnerait pas Simon Hull, tout se contredisait complètement. Pour quiconque a lu un peu de jurisprudence dans les dernières années, le jugement de Poliquin était sérieusement hors cadre. La fourchette des peines habituellement infligées pour des agressions sexuelles de même type, donc comparativement à ce que Simon Hull avait fait, varie entre 12 à 20 mois, selon la cour d'appel. Donc, normalement, n'importe quel juge qui a un peu lu la jurisprudence des causes des dernières années aurait dû donner quelque chose entre 12 et 20 mois. Donc, ce n'était pas normal que Simon Hull s'en sorte avec une absolution conditionnelle. Le juge a semblé confondre les deux crimes. Hull a pris 9 photos du sexe et des seins de la victime et les a gardées dans son téléphone un mois et demi. Ce n'était déjà pas un argument de dire que les crimes s'étaient déroulés somme toute rapidement. Mais en plus, ce n'était pas le cas. Hull a suivi sa victime dans 2 pièces de l'appartement où les événements se sont déroulés. Et comme je le dis, ça s'est déroulé sur plusieurs minutes. Ça n'a pas duré 3 secondes. Ça a duré le temps de justement prendre 9 photos différentes dans 2 lieux et à des heures, évidemment, sur les photos différentes. Pas 9 photos en rafale. La porte n'était pas pour autant fermée. Une absolution en matière d'agression sexuelle, c'est déjà arrivé, mais encore fallait-il que les circonstances le justifiaient et qu'elle n'aille pas contre l'intérêt public. S'écarter autant de la fourchette habituelle des peines avec des faits aussi sérieux était de nature à miner la confiance du public envers la justice, et ce fut le cas avec le tollé qui a été causé, parce que justement quand la nouvelle est sortie, personne n'en revenait et c'est pour ça que quand c'est sorti, il y a eu énormément de questions qui se sont posées. Les juges ont une marge de discrétion, ils ne sont pas obligés de suivre ces fourchettes, ils peuvent s'en écarter car aucun cas n'est identique, évidemment, aucun accusé n'est comme un autre. Il arrive donc qu'un juge penche vers la sévérité et un autre davantage vers la clémence. Donc, le 12 à 20 mois, encore une fois, un juge va dire 20, l'autre va dire 12 pour une cause qui va se ressembler, entre guillemets, sans être évidemment la même chose. Évidemment, ben, si la peine ne fait pas l'affaire de la défense ou du directeur des poursuites criminelles, un appel est possible, chose qui est arrivée dans le cas avec Simon Hull, parce que évidemment, c'était beaucoup trop clément. Qui plus est, lors de la lecture du verdict, Simon Hull est allé avouer qu'il avait déjà fait des quelque chose de similaire, ou en tout cas qu'il avait déjà fait des attouchements sur une autre femme quelques années avant les événements pour lesquels il s'est ramassé en cour. Et au lieu que Mathieu Poliquin le prenne en considération en disant « Ah, mais là, c'est une récidive, donc il mérite d'avoir quelques mois de prison », il est allé dire « Bon, vous voyez, il reconnaît qu'il a déjà eu des problèmes par le passé, donc il a fait un certain cheminement ». Donc, c'est ce genre de point-là qui était interprété, on va dire, à l'envers, ou qui était mal interprété par le juge, qui faisait en sorte que ben non, c'est pas ça la conclusion que tu dois tirer. C'est tu vas complètement à l'envers de ce que tu devrais faire. Et c'est pour ça que, en cassant le jugement, évidemment, la Cour d'appel a détruit point par point le jugement de Mathieu Péloquin, donc en lui remettant lui également dans le visage que son travail n'avait pas été bien fait, et par le fait même condamnant Simon Hull à un 12 mois de prison pour cette fois-ci. Voilà, conclusion de dossier pour quelque chose qui a duré quasiment un an, mais quand même, donc l'ingénieur Simon Hull, qui avait somme toute agressé quelqu'un rapidement, ira finalement du côté de la prison, tout en tapant sur les doigts du nouveau juge nommé Mathieu Poliquin. Et voilà, donc on courte pause là-dessus. Au retour, on continue à parler de l'actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3.
Bonsoir, chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
Ah, chérie, j'arrive. Ce qu'on sort du four, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben!
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Black Vox, mon cœur skip a beat, that's off at the night, folks. faudrait passer à autre chose. Quand on laisse, baby, tu pourrais me le cacher même au fin fond de Belize. Catch me when I sleep, comme si t'étais Freddy. Flagrant déni, à table et à t'attendre tout seul. Resto chez Denise. Je serai resté sur ma faim.
Yeah, I did it again. Goddamn, je suis insane. J'poule un butin sur moi-même. Toujours le même. Feel quand mon téléphone ring. J'blood seul dans mon lit king. J'me parle à moi-même. Va pas le nom.
Greg Baudin, les louanges, pas toi encore, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Restons quelques secondes du côté judiciaire, puisqu'il y a un autre verdict qui a été rendu cette semaine, qui avait fait énormément jaser dans la sphère. Du côté de Joliette, Éric Rondeau a été reconnu coupable par le jury de conduite dangereuse causant la mort jeudi. Au terme de deux jours de délibération, en voulant contourner des canards sur son chemin, le conducteur a roulé à contresens dans un virage et a tué un motocycliste de 19 ans. Le jury l'a déclaré coupable. Lui se défendait en disant qu'il voulait laisser passer les petits canards dans le milieu du chemin. Et c'est pour cette raison-là qu'il a décidé de rouler dans la courbe, dans la voie opposée, ce qui a évidemment laissé aucune chance au motocycliste qui arrivait dans le sens inverse. Donc voilà, lui, sa défense était de protéger les canards, évidemment raison de schnout. Évidemment, le motocycliste est mort pratiquement sur le coup. C'était sans rappeler non plus en 2010 la dame aux canards qui avait également fait les manchettes, une jeune femme, Emma Tchornobage, qui avait causé également la mort d'un autre motocycliste et de sa fille dans une collision impliquant des canards. La conductrice avait arrêté sa voiture sur la voie de gauche en juin 2010 pour sauver les canards qui se trouvaient près du muret. Le motocycliste et sa passagère avaient percuté de plein fouet le véhicule à l'arrière. Donc, dans le même cas que Rondeau, s'il était resté dans sa voie, les gens derrière lui l'auraient vu, donc il aurait pu arrêter avant d'embarquer dans la courbe et lui de faire un dépassement illégal, que ce soit pour des canards ou un autre char. Il n'avait pas le droit de toute façon de se déporter sur la voie à côté. Donc le jury est donner raison à la couronne, comme quoi c'était Éric Rondeau le cas problématique là-dedans. Pour sa défense, il a affirmé au jury qu'il s'était retrouvé sans le vouloir. Il a soutenu avoir eu les yeux fixés sur son rétroviseur pendant toute la manœuvre de contournement des canards, puisqu'il craignait l'arrivée des véhicules derrière lui. Visiblement, ce récit n'a pas réussi à convaincre le jury, parce que comme je le dis, la courbe était dans son sens. Donc, quand même qu'il y aurait eu un char qui serait arrivé en arrière de lui, le char en arrière de lui aurait breaké. Donc évidemment, c'est sûr que ça a pas, ça n'a pas convaincu le jury. La couronne est extrêmement satisfaite du verdict. On espère pour les membres de la famille que le procès a apporté des réponses et pourra les aider dans leur cheminement de deuil. A réagi Maître Dubois qui avait fait équipe avec Maître Jade Coderre, qui sont les représentants de la couronne dans ce dossier. Donc événement qui s'était déroulé en juillet 2019 à Sainte-Élisabeth près de Joliette, Ford F-150 qui a fauché la vie du motocycliste de 19 ans. Allons maintenant d'un côté plus plus joyeux, plus festif, puisque les Oscars s'en viennent. C'est un gala qui est en perte de vitesse énormément du côté américain, mais on compte sur le fait qu'il y a eu un peu de controverse l'année passée avec un certain Will Smith qui est allé fesser un certain Chris Rock, mais surtout que on a décidé de ramener beaucoup de films que les gens ont vus au cinéma, ce qui sera quand même une bonne carte de visite pour dire aux gens « Hey, venez voir notre gala, ça se peut qu'un film que vous ayez vu gagne un trophée. » Donc déjà là, c'est un peu plus encourageant que lorsque c'est des films un peu plus d'auteurs qui se retrouvent dans ces catégories-là, veut, veut pas, malgré tout. Ce qui fait en sorte que le très étrange, mais ô combien savoureux, tout partout, tout à la fois, Everything Everywhere All at Once mène la course aux Oscars avec 11 nominations. Donc, pour une comédie de science-fiction qui se ramasse en tête des courses des Oscars, c'est extrêmement particulier, mais ça va faire en sorte que les gens vont regarder ce gala-là parce que justement, il y a des films qu'on ne pensait pas qui se retrouveraient en nomination s'y retrouvent. Notamment Elvis, notamment La Baleine, notamment Les Fablemen, notamment Black Panther. Ne serait-ce que pour Angela Bassett, comme je n'avais parlé, qui avait joué une excellente performance en tant que la mère de Black Panther, qui se retrouve en nomination pour meilleure actrice de soutien, mais ce sera une catégorie extrêmement convoitée, puisqu'on y retrouve Hong Chu pour La Baleine, Kerry Condon pour Les Banshees d'Inisherin, ainsi que Jamie Lee Curtis et Stephanie Hsu pour Everything Everywhere All at Once. La catégorie meilleure actrice rôle de soutien risque d'être extrêmement surveillée. Parmi les meilleurs acteurs, Austin Butler pour Elvis. Je comprends l'idée, mais est-ce qu'il va le remporter? Ça serait extrêmement surprenant. Colin Farrell, les Banshees d'Inisherin, je vais bien le dire. Brendan Fraser pour La Baleine. Quelques chances pour Fraser. Paul Mescal, Afterson. Bill Nighy pour Vivre. Meilleure actrice, Kate Blanchett pour Tar. Ada de Armas pour Blonde. Andrea Riseborough pour To Leslie. Michelle Williams pour Les Fablemen, ce que j'ai adoré dans ce film-là. Et évidemment, Michelle Yeoh pour Everything Everywhere All at Once, que j'ai également extrêmement adoré. Donc, meilleure actrice également, ça va être difficile. Meilleure réalisation, plutôt meilleur réalisateur, Martin McDonagh, Les Banshees d'Inisherin. D'Inisherin, je sais pourquoi je rajoute des lettres dedans. Daniel Kwan, Daniel Sheener. Il y a un T. Everything Everywhere All at Once. Steven Spielberg pour Les Fablemen. Todd Field pour Tar et Ruben Ostulen pour Sans filtre, catégorie meilleur film. Il y en a beaucoup. Et justement, où il y aura des gens qui vont être intéressés parce que ce sont des films à grand déploiement. Avatar 2, Alois Rien Nouveau, Les Banshees d'Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Tar, Top Gun se retrouve là, meilleur film, Maverick, Sans filtre et Woman Talking. Top Gun Maverick a été au cinéma de sa sortie jusqu'à tout récemment. Fait que oui, il va y avoir des chances. Peut-être pas meilleur film de l'année, mais il y a quand même des chances. Meilleur acteur dans un second rôle, Brendan Gleeson, Les Banshees d'Inisherin, Brian Tyree, Henry Cazaway, Jude Irish, The Fablemans, Judd. Donc le père de Spielberg dans le film, Barry Keoghan, j'étudie Spielberg, oui c'est ça. C'est ça, Steven Spielberg, je sais pas pourquoi j'ai hésité. Et évidemment. Qui, why, quan, everything, everywhere, all at once. Donc, dans les catégories principales, qui plus est, everything, everywhere, all at once se retrouve en nomination. Et sinon, meilleur film à l'étranger, le Canada ne s'y retrouve pas cette année, mais on y retrouve de l'Allemagne, à l'Ouest, rien de nouveau, de l'Argentine, Argentina, 1985, de la Belgique, le film Close, et de la Pologne, le film I.O. Donc, voilà pour les catégories principales. Le gala des Oscars aura lieu le 12 mars prochain du côté d'Hollywood. Le fait qu'évidemment on reproche énormément à la cérémonie de ne pas avoir beaucoup de diversité, et évidemment avec Everything Everywhere All at Once, où les personnages principaux qui sont une famille asiatique, ça donne un peu de regain à ce scepticisme ambiant habituel, mais quand même c'est amplement mérité, ne serait-ce que le film justement parce que c'est un ovni, parce que le multivers était à la mode parce que c'est sorti à peu près dans les mêmes temps que Doctor Strange, mais que, étonnamment, le multivers a été beaucoup mieux exploité dans Everything Everywhere All at Once que le film qui porte multivers dans son titre, soit Doctor Strange. Donc, pour cette raison-là, il devrait rafler quelques prix. Mais quel prix? La question se pose. Évidemment, actrice de soutien, ça serait complètement, ben, ça serait complètement cool pour l'une des deux, quoique Black Panther vient un peu mélanger les choses. Mais comme meilleure actrice, j'ai envie de dire que Michelle Yeoh va peut-être repartir avec le trophée, mais encore là, ça sera à découvrir à la mi-mars prochain. Dernière pause, retour à la conclusion de l'émission. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez ZFAC.
J'ai tapissé de bleu mon ciel plafonné, érigé en coupe-feu ma tête bouclier. Je rapaille mes morceaux, je les brode sur moi, oublier le chaos que je trouve dans tes bras.
Sandrine Saint-Laurent avec Lumière, qu'on vient d'entendre en musique. Faisons un petit tour télé parce que les gens vont se promener un petit peu partout dans la grille horaire télévisuelle québécoise au courant des prochaines semaines et il y a quand même des gros changements qui vont être apportés. Notamment du côté de Télé-Québec puisque Marc Labrèche va quitter cette année-là, comme je disais à Télé-Québec, donc qui retraçait les événements d'une telle année pour parler de culture et pour faire des liens avec l'actualité récente. Bon, évidemment, on était rendu à la saison 5, même si c'est pas la saison 6. Fait qu'on avait un peu fait le tour de toutes les années qu'on pouvait exploiter. Il fallait un moment donné que l'émission se termine. Ce sera le cas. Par contre, Marc Labrèche ne reste pas du côté de Télé-Québec. Il traversera du côté de TQS, puisqu'il s'en va à nouveau. Il retourne à nouveau. Non, ce n'est pas le retour de la fin du monde est à 7 heures. Ce sera quand même un autre talk show à la manière également qu'on pourrait dire du Grand Blond ou de 3600 secondes d'extase. Donc, Marc Labrèche revient probablement au sketch davantage, donc reviendra à la parodie plus qu'à l'entrevue et aux variétés. Quoique l'un n'empêche pas l'autre, il faisait quand même de l'actualité dans 3600 secondes et dans la fin du monde est à 7 heures. Donc les deux ne seront pas complètement exclus l'un de l'autre. Donc à la tête d'un nouveau talk show qui sera diffusé sur les ondes de nouveau dès le printemps prochain. Ben en fait dès le mois d'avril probablement, si c'est pas en mai. L'émission dont le titre n'a pas encore été dévoilé proposera des entrevues, des sketchs, des parodies et des prestations musicales. Techniquement, il ne remplace pas Julie Snyder puisque techniquement, c'est Marilyn Jonca avec le fabuleux printemps de Marilyn qui remplace la semaine des 4 juillet pendant la période estivale. Dans ce cas-ci, Marc Labrèche arrivera avec une autre émission enregistrée devant public. Ah, peut-être comme son émission qui était à RTV. Qui avait une chanson de Daniel Bélanger dont j'oublie complètement le titre, donc ça va peut-être se rapprocher de ça. Ça sera diffusé deux fois semaine pour raconter sur la fidèle présence d'une douzaine de personnes invitées issues des différents milieux ainsi que son groupe musical Maison. L'émission sera produite par France Beaudoin, par Pamplemousse Média, donc qui quitte la tour de le gros bâtiment blanc de Radio-Canada maintenant, ce n'est plus une tour uniquement, pour se rendre à nouveau. Donc France Beaudoin elle aussi quitte un peu son domaine d'expertise de Radio-Canada pour aller du côté de nouveau avec Marc Labrèche qui a géré à titre de producteur associé et qui s'est dit ravi de travailler enfin avec son ami France. À suivre, notamment France qui avait été également parodie à quelques occasions. Voilà, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, nouvelle émission pour Marc Labrèche qui promet du côté de nouveau cette fois-ci. Donc il quitte, comme je le rappelle, Télé-Québec. Par contre, à Télé-Québec, Christian Bégin sera lui à la barre d'une nouvelle émission qui s'intitule La Grande Messe, qui n'est pas il y a du monde à la messe, mais La Grande Messe, donc un autre show qui va peut-être s'en rassembler ou en tout cas qui vont se prêter au jeu d'aller s'isoler dans une église pour juste jaser avec du monde qui normalement parle beaucoup, on peut dire ça comme ça. On devrait y retrouver dans cette émission-là Mariana Mazza, Denise Bombardier, qui normalement sont des amis dans la vie. On ose croire que Mariana va réagir aux commentaires de Denise dans les dernières semaines, qui s'en est pris gratuitement à Christine Morancy pour... je sais pas trop, là, pour casser elle aussi du sucre sur le dos de Christine Morancy, parce que elle a fait un gag qu'elle a jugé pas drôle. Donc l'entièreté de l'univers de TVA a décidé de s'attaquer à une émission sur Internet en tant que LOL qui ira le dernier de Patrick Huard sur Amazon. Donc pourquoi c'est arrivé soudainement, on ne sait pas trop, mais Denise Bombardier en tête de liste qui redevient cette femme qui déteste les humoristes du Québec. Donc elle a repris son rôle très bien cette année, également autour de la table ou dans l'église, on ne sait pas trop. Paul Oud et Luc Ferrandez. Donc nouvelle émission, mais qui se rapproche un peu quand même de l'émission qui existe. Donc probablement juste que la chorale sera pas là. Ça sera la différence avec du monde à la messe pour la grand-messe qui sera sur les ondes de Télé-Québec. Autre revirement également, ben en fait, tout se suit dans une certaine manière puisque on a dévoilé aujourd'hui même les candidats de l'émission Survivor Québec, donc la nouvelle mouture de cette télé-réalité américaine-là qui a énormément... qui marche énormément du côté américain. C'est Patrice Bélanger qui en sera l'animateur. À la co-animation analyse, Jean-Thomas Jobin, qui est le plus grand fan au Québec de la série Survivor, qui n'est pas l'animateur, mais l'analyste, donc qui est quand même dans l'environnement de Survivor. Donc, il ne sera pas non plus concurrent, bien qu'il ait fait Big Brother. Dans le cas de Survivor, c'est de se rendre sur une île déserte, ou à peu près, de réaliser des épreuves, de faire des trucs de survie sur cette île-là. On n'en garde qu'un seul jusqu'à la fin. La version québécoise devrait voir le jour très bientôt. On a dévoilé les concurrents, comme je le disais. Mais ce qui fait en sorte... Et ce sont des gens du public. Ce sont pas nécessairement des vedettes. Donc, ce n'est pas Survivor vedette. Survivor célébrité. C'est vraiment un Survivor traditionnel dans la forme de la chose. C'est du côté de nouveau que ça va se dérouler également. Comme c'est la maison de production de Julie Snyder, on fait tolérance zéro pour l'intimidation à Survivor. Ça a déjà été précisé, évidemment. Ce qui faisait en sorte que, comme Patrice Bélanger s'en va du côté de nouveau, qu'il quitte la bâtisse brune de TVA, il y avait une place à combler pour l'émission sucré-salé de cet été. Donc, plutôt que de mettre une nouvelle émission, on décide de, encore une fois, garder l'émission avec un troisième animateur. Et ce sera une animatrice, cette fois-ci, puisque Mélanie Ménard prendra la place de sucré-salé, donc qui va être la nouvelle animatrice permanente de l'émission, bien qu'elle ait déjà fait des chroniques à l'époque où Sucré Salé était à la ronde. Mélanie Ménard revient en tant qu'animatrice principale. Et évidemment, les gens se sont inquiétés. Oui, mais là, si Mélanie Ménard s'en va à Sucré Salé, ça veut-tu dire qu'elle ne sera plus ailleurs? Eh bien non! Comble de surprise, elle pourra conserver ses autres rôles. Donc, elle pourra continuer d'être la nouvelle co-animatrice des enfants de la télé, parce que ça faisait quand même seulement une seule saison qu'elle était à la barre de la co-animation. Donc, elle conserve son poste du côté de Radio-Canada. Mais elle est également animatrice à la radio du côté de Montréal, sur les ondes de Weekend Montréal. Elle animait la quotidienne matinale. Donc, elle devrait continuer de faire la radio également. Donc, TVA... dans un drôle de moment, parce que d'habitude, ils ne font pas ça. Là, c'est le nouveau temps qui commence, on sait pas trop. Lui ont permis de continuer ses engagements ailleurs, notamment à Radio-Canada, ce qui est quand même particulier, de devenir une tête d'affiche de TVA tout en étant à la barre d'une des émissions quand même fortes de Radio-Canada. Donc, TVA lui a permis de garder son autre conflit d'horaire, entre guillemets. Bon, évidemment, c'est pas tourné en même temps, mais quand même... Donc, chapeau. C'est rare qu'on peut dire ça, mais chapeau pour cette belle initiative quand même. Donc, du côté de TVA, cette fois-là, Sucré Salé sera dorénavant animé par Mélanie Ménard. Et pour conclure la boucle de tout ça, je l'ai parlé brièvement, Julie Snyder, elle recevait cette semaine la conjointe de Serge Thériault. Donc, Serge Thériault qui a... disparu de la sphère médiatique depuis quelques années suite à une énorme dépression. Donc, dans le cadre de la journée Belle Cause pour la Cause, Julie Snyder a reçu sa conjointe Anna Suazo sur son plateau pour jaser de Serge, donner des nouvelles de Serge, puisqu'il y avait eu un documentaire qui était sorti c'était l'an dernier, sauf erreur. Elle avait quand même participé à Dehors, Serge Dehors, donc qui se voulait un peu l'espèce de questionnement de qu'est-ce qui s'est passé avec Serge Thériault pour qu'il décide de juste disparaître, être reclus dans son coin. T'sais, qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Apparemment, Serge Thériault n'a jamais vu ce documentaire-là en question. Et elle-même l'a dit, Anna Suzo a dit à l'automne 2021, j'ai fait un documentaire parce que j'étais au bout. Je ne savais plus quoi faire. Elle ajoute, j'avais trop d'amour et de tristesse en moi pour le laisser finir sa vie comme ça en parlant de Serge. L'acteur n'a jamais vu le documentaire en question. Anna Suzu disait qu'elle espère qu'un jour il va prendre la décision de le regarder. Juste avant l'émission présentée en direct, Serge Thériault a rassuré son amoureux de téléphone. Il a dit ça va bien aller. Je me sens plus à l'aise maintenant parce que quand on a présenté le documentaire, j'ai eu beaucoup de questions dans la salle de cinéma. Je répondais à tout le monde. L'animatrice s'est ensuite adressée à la caméra en disant « Serge, puisque tu nous écoutes, on t'aime », a dit Julie Snyder. Donc, ne profitez pour répéter que les gens aiment encore Serge Thériault, que malgré sa disparition, mais en même temps, lui, ça y tentait plus. Hein? On peut pas empêcher quelqu'un, on peut pas forcer quelqu'un à quelque chose qu'il veut pas. Mais... peut-être reverrons-nous un jour, peut-être, Serge Thériault, sait-on jamais, mais pour l'instant, il est toujours caché chez lui. Dehors, Serge, dehors, doit être visionnable quelque part sur les plateformes. Malheureusement, je n'ai pas l'information, puisque l'émission se termine là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service. À la semaine prochaine. Salut.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM, à Québec.
Votre festival déjanté préféré de retour du 10 au 18 février 2023. Cette année, le FOCOF reçoit en grand. Ce sont près de 100 artistes qui fouleront les scènes de la ville de Québec. Retrouvez entre autres Vanille, Velours Velours, Metz, Fudge, The Winston Band, Margaret Tractor, Jonathan Pearson, Feluca, Milankou, Mantis, You Do Right, et bien plus encore du 10 au 18 février. Billets et informations au focoff.com.
Le temps d'un gin tonic, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h30 à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des ginto et ben du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une demi-heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Béchy.